Info Club Sandwich.
Votre rendez-vous d'actualité locale, associative et culturelle.
Sur Radio Campus Amiens.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Campus Amiens, c'est Juliette pour Info Club Sandwich. Aujourd'hui, on reçoit Lucas Simoni du cinéma Orson Welles pour décortiquer la nouvelle programmation de cette fin janvier et de ce début février. Bonjour Lucas.
Bonjour Juliette, bonjour à toutes et à tous.
Alors le cinéma Orson Welles nous propose encore une fois une programmation assez variée. Du 29 janvier au 4 février, on aura notamment Le Miracle de Saint Inconnu, Les Filles du Docteur March ou encore Swallow. Voir le film culte même La Grande Évasion et enfin une soirée avec l'acid pop et le film Vif Argent. Est-ce que tu peux nous parler du coup de cette soirée le lundi 3 février ?
Oui, tout à fait. Le film Vif Argent, c'est un très beau film d'amour. C'est l'histoire d'un fantôme qui se balade dans Paris et que peut retrouver, enfin peut voir les gens en fait vivre et il va croiser une jeune fille qui est vivante et qui va pouvoir le voir. Et donc une histoire d'amour, il va s'énuer entre tous les deux. Ce qui est intéressant par rapport à cette soirée, je pense, c'est qu'on va accueillir Stéphane Batou, qui est le réalisateur du film, et qui pourrait assister à une masterclass qui précédera le film. Et c'est un format un peu spécial, on l'a déjà fait en fait auparavant. C'est une séance qui rentre dans le cadre de l'acid pop, qui est une manifestation, bon, une idée en fait de la CIT, qui est l'Association pour le cinéma indépendant et sa diffusion, qui est sous le format, cette idée, cette acid pop, c'est des séances qui sont en format d'université populaire. Donc, on fait une sorte des masterclass ou des rencontres plutôt entre deux cinéastes avant la séance du film. Ensuite, on vous propose un petit collation, un apéro dînatoire très modeste, et puis la projection du film. Et ensuite, il y a un débat à l'issue de cette... au propos du film. D'ailleurs, la masterclass, en fait, il ne tourne pas forcément sur le film, mais sur un sujet qui se dégage du film. Dans ces cas-là, c'est la création d'un personnage au cinéma. Parce que comment crée-t-on un personnage pour le médium qui est le cinéma. Donc je pense que c'est une occasion justement pour les étudiants et pour tous ceux qui sont intéressés par la création et tout simplement par la cinéphilie, de venir découvrir une rencontre déjà, d'assister à cette masterclass et surtout de découvrir aussi ces films, qui est un film qui a gagné, je pense comme tous les sais, a gagné le prix Louis des Ducs et aussi le prix Jean Vigo en 2019.
Donc soirée spéciale autour du film Vif Argent et d'une masterclass sur la naissance du personnage avec le réalisateur le lundi 3 février à 20h je crois.
Dès 18h30. En fait c'est un peu long du coup puisque voilà, la masterclass commence à 18h30.
Et le film à 20h.
À 20h. Mais d'ailleurs on préfère, enfin en fait c'est des choses qui sont indissolubles, il faut assister aux deux en fait. On achète un billet pour aller voir les deux. Voilà, c'est le 3 février, comme tu le disais. C'est...
Et cette semaine-là, on a aussi Swallow, qui est d'ailleurs sur la couverture du programme.
Oui, Swallow, qui est un très beau film de genre, un film indépendant d'un jeune réalisateur qui réalise ici son premier long-métrage, il s'appelle Carlo Mirabella Davis. C'est un très beau thriller, très intimiste et très minimaliste aussi, qui raconte l'histoire de cette jeune fille qui s'est retrouvée un peu prisonnière de son mariage et de son mari et de sa famille en fait. Elle appartient à un statut social différent. Et on est vraiment tout le temps avec elle dans cette espèce de maison très luxueuse, mais en une espèce de prison en verre. Et puis, il développe je sais pas si ça s'appelle une maladie, mais plutôt un complexe, quoi. C'est le pica, en fait, qui consiste à avaler des choses pour ensuite aller les récupérer dans les toilettes pour en faire des trophées. Et donc, il y a quelque chose de très beau comme une sorte de réflexion sur les gestes artistiques, en fait, et sur la performance qui est très, très intéressant. Et le film, visuellement, est très, très beau.
Ouais, je lisais aussi que cette maladie, c'était quelque chose, c'était comme un synonyme d'une maladie de la société, en fait. Elle est complètement emprise du patriarcat elle est à sa place de femme, et en fait, elle a sa place de femme au foyer, et elle ne supporte pas du tout.
Mais complètement, complètement, c'est exactement ça. Cette pulsion, en fait, lui permet d'avoir l'impression d'être en contrôle, en fait, de retrouver le contrôle, de contrôler quelque chose au moins. Parce que, enfin, en avalant les objets, il se les approprie. C'est pour ça que je trouve que la métaphore avec l'artiste, elle est très. Elle est intéressante parce qu'on. Enfin, en tout cas avec les gestes artistiques, parce qu'on va s'approprier les choses et pour mieux les comprendre, pour mieux aussi contrôler nos vies. Et ben ensuite, on va produire quelque chose peut-être qui va nous aider à vivre mieux. Donc, du coup, il y a vraiment une corrélation là-dedans. Mais effectivement, ça va être pas très, très beau d'avoir, de développer une pulsion pareille. Ouais.
C'est un film assez féministe, du coup, qui est assez ancré dans l'air du temps.
Ah, absolument, oui, absolument. C'est un film très féministe. Oui. L'actrice principale, elle est très, très forte. Il arrive à jouer la fragilité, il arrive à jouer l'émancipation aussi. Bref, on sent vraiment l'emprise, en fait. On sent la prison, on sent cette ambiance qui est rendue. Et elle, le film, il s'en sort très bien. Enfin, c'est quelque chose qui est... La question du féminisme, la question de la libération de la femme, des fonctions, elle est très bien mise en scène. Ouais, c'est très beau.
Et en parlant de l'émancipation des femmes, dans Les Filles du Docteur March de Greta Gerwig, on a aussi...
Oui, tout à fait. On est dans la même...
On n'est pas du tout dans le même contexte, non. Mais on est quand même dans l'émancipation de la femme au 19e.
Oui, tout à fait. C'est effectivement... Après, j'ai envie de dire que Les Filles du Docteur March, c'est une facture un peu plus classique. Il y a quelque chose, une sorte de classicisme qui est un peu étonnant, en fait, de la part de Greta Gerwig. Personnellement, j'aurais attendu un peu plus de fraîcheur. Il y a des scènes qui sont réussies, mais après, il y a des... Tout à apprendre une sorte de classicisme un peu... Je trouve ça un peu dommage. D'ailleurs, dans Swallow, il y a beaucoup plus d'audace, justement par rapport à ces questions de l'émancipation et questions de mettre en scène cette libération. Dans les Filles de Thor March, le texte de base est déjà porté vers...
Ouais, est-ce que je rappelle que c'est une adaptation d'un roman,
oui,
de Louisa May Alcott, une écrivaine américaine.
Écrivaine très connue qui a fait, en anglais, le titre original, c'est Little Woman, en fait. En français, on traduit ça par Les Filles de Dr. March. Mais c'est Les Petites Femmes, en fait. Et donc, Alcott, il a écrit toute une suite, en fait. Et même, il a écrit Les Petits Hommes aussi. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français, ça. C'est Little Men. Voilà, et donc et c'était un peu vraiment son truc d'écrire au milieu du 19e, d'écrire un peu
l'émancipation sociale et l'émancipation de la femme.
Tout à fait, oui.
Parce que j'ai lu qu'en plus, dans le roman, on suit une première partie de l'enfance, puis une deuxième partie où elles sont plus adultes, alors que dans le film, elles tentent de faire des allers-retours.
Oui.
Entre ces deux périodes.
Tout à fait. Oui. D'ailleurs, ils sont un peu étranges. Mais le film est très bien. Hein. C'est un film qui rentre dans un classicisme en fait, qui est très plaisant, on va dire. Mais voilà, là où je suis un peu mitigé, c'est que voilà, je me dis c'est que quelqu'un comme Greta Gerwig qui incarne une certaine fraîcheur qui est en tant qu'actrice et voilà tellement tellement spontané, il allait apporter justement cette espèce de les mots qu'on utilise tout le temps pour dire une espèce d'énergie comme ça au film et voilà, et j'ai l'impression qu'il reste un peu corseté dans le classicisme, déjà de se confronter à un classique de la littérature américaine, parce que pour les Américains, Les Filles de Dr. March, c'est un énorme classique. Et puis aussi au studio, quoi. Parce que là, je pense que c'est une première fois où elle a vraiment tous les moyens après avoir...
Après, voilà. Ils ont aussi... c'est très classique, mais ils ont pris un casting aussi assez sympa. Ils étaient sûrs que ça allait plaire, quoi. Emma Watson, Timothée Chalamet...
Tout à fait. Ils sont très bien, d'ailleurs. Hein. Enfin, les castings, il est parfait. Ils sont tous à tous les rôles plutôt bons. Il y a même Louis Garrel, notre Louis Garrel national, et puis il y a aussi Meryl Streep qui est encore dans un deuxième rôle très bien comme souvent, et effectivement, enfin, on pourrait presque dire voilà, vu la date des sorties, enfin, c'est un peu un film à Oscar, quoi, enfin,
ouais.
qui va Rappelons que Greta Gerwig, il avait été déjà nommé aux Oscars pour Lady Bird l'année dernière. Enfin, donc du coup, voilà, il y a un truc comme ça. Mais c'est un film qu'il faut voir de toute façon, parce que c'est... Et je trouve que c'est très intelligent d'avoir mis quelqu'un comme Timothée Chalamet, parce que en discutant comme ça avec les adolescents, ils y vont voir du coup le film, et je pense que c'est intéressant qu'ils voient ça aussi, en fait.
Et du coup, cette semaine du 29 janvier au 4 février, on a aussi Le Miracle du Saint Inconnu.
Le Miracle du Saint Inconnu, effectivement, que c'est un petit film très, très drôle et sympa qui raconte l'histoire d'un voleur qui va enterrer son larcin dans un dessert. Et quand il sort de prison, il veut le récupérer. Il s'aperçoit qu'on a construit une espèce de temple des prières et qu'il y a une ville qui a poussé à côté. Donc, du coup, il ne peut pas récupérer ça. En fait, il avait fait une fausse tombe. Et donc on découvre un peu tous les personnages qui se sont installés dans cette village, et c'est vraiment pince à rire, et c'est très très drôle. C'est vraiment un film qui enfin moi ça m'est ravi quand je découvre ces genres de petits films, parce que ils véhiculent une sorte d'humour qui est très intelligent, et avec une mise en scène très simple, en utilisant juste les espaces d'un pays qui, bon, moi pour ma part je connais mal le Maroc, mais voilà, qui peut peut-être parler aux Français qui ont des rapports comme ça avec l'Afrique. Et puis c'est un deuxième film, je crois, d'Alan Edina Ayram, qui c'est pas une grande production, mais ça remplit bien son contrat.
Petite comédie donc à retrouver entre le 29 janvier et le 4 février. Voilà. La semaine suivante, entre le 5 et le 11 février, on a notamment À couteau tiré de Rian Johnson.
Ouais, Rian Johnson, qu'on connaît surtout pour son Star Wars, le deuxième, donc Le Retour des Jedi. Mais surtout, il avait fait Looper avant, et avant ça, il avait fait un petit bijou du cinéma noir qui s'appelle Brick, avec Joseph Gordon-Levitt, qui était très bien. Si vous n'avez pas encore vu Brick, il faut découvrir ce film, c'est très beau. Et puis, enfin, c'est très plaisant, quoi. Et puis, voilà, La Côte Tirée, c'est une reprise qu'on fait, parce que le film est très intéressant, avec un casting très... C'est un remake, déjà, d'un film qui est sorti à la fin des années 80. Et puis Daniel Craig,
en détective.
Un détective, en sorte de Cluedo dans une maison, avec pareil un casting très varié et intéressant et beau. Enfin, c'est un film qu'il faut aller voir. Surtout parce que nous, on le propose en VO. Donc, c'est entendre Daniel Craig parler anglais, c'est toujours un plaisir. British English, c'est cool.
Yes. Très Agatha Christie aussi, apparemment.
Oui, absolument.
C'est complètement ancré dans le policier.
Voilà, je l'ai pas dit, mais effectivement, c'est un policier dans, avec tout ce qu'il y a avec, et très bien mis en scène, en fait.
Et donc, dans cette semaine du 5 au 11 février, on a La Llorona aussi.
La Llorona, effectivement, qui est un film de Jairo Bustamante. J'ai toujours envie de dire qu'il est mexicain, mais il est guatémalien, en fait. Donc, du coup, voilà, qui raconte cette légende, qui est une légende assez connue, répandue en Amérique du Sud, à propos de cette jeune femme qui va apparaître face aux gens qui l'ont fait du mal, quoi. Enfin, qui va venir réclamer d'une certaine façon son dû. Enfin, soit un amour, soit aussi c'est surtout un amour, en fait. Et Jairo Bustamante réussit à tourner cette légende dans une critique sociale, et en lui donnant comme ça toute une dimension par rapport à la situation et des femmes au Guatemala, qui n'est pas une situation facile, et aussi la situation des pouvoirs, en fait, parce que c'est toujours un rapport du pouvoir au gouvernement qui n'est pas évident.
Oui, je disais que c'était aussi La Llorona, l'objectif était de retourner la tradition pour en faire, au lieu d'avoir quelque chose de très machiste, d'avoir une dimension plutôt féministe, en fait.
Oui, absolument, c'est très ancré là-dedans, c'est vraiment cette... L'idée, elle est là-dedans, en fait, de donner à cette figure des fantômes une encore et une puissance féministe, en fait. Moi, je l'avais toujours perçu un peu comme ça, en fait, j'ai l'impression. Donc, mais c'est vrai que il y a une dimension machiste dans cette idée de la femme qui va pleurer, mais moi, je l'ai toujours perçu comme quelque chose de prendre le pouvoir, en fait, et donc, du coup, s'évenger, quoi. Enfin, voilà, c'est un peu étrange, mais voilà. Mais en tout cas, c'est un film qui est très maîtrisé, très beau, et qui nous amène, justement, à faire ces doubles réflexions entre la question du pouvoir, en fait, la question du pouvoir et entre les genres, entre les classes et entre les pouvoirs politiques, voilà, les pouvoirs sociaux.
On aura aussi Lola Montes, un classique de Max Ophuls.
Super beau, avec ces fameux travelling circulaires et travelling avant. Lola Montes, qui c'est un classique en version restaurée, qu'il faut vraiment découvrir un grand écran. Je ne peux que vous inciter à aller découvrir ces beaux films au cinéma, puisque on a peu de chance de les voir en plus, donc...
Et enfin, la dernière semaine, enfin mi-février, du 12 au 18 février, on aura notamment un documentaire « Histoire d'un regard » sur le photographe de guerre Gilles Caron.
C'est un très beau documentaire d'un excellent photographe, jeune photographe qui est mort sur le terrain, quoi, dans la guerre, et qui... Ces images, ils habitent notre imaginaire, parce que il a fait énormément d'images qui ont été publiées un peu partout, et on sait, en fait, on l'identifie pas lui, forcément. Et donc, Marianne Otero, qui est une documentariste très engagée, nous avions accueilli à quelques temps son film sur la nuit debout, par exemple, Marianne Otero, il se plonge en fait dans tous les archives, et c'est très intéressant de la façon dont il va essayer de reconstruire ou essayer de déceler le mystère de cette personne à travers tous les clichés qui lui a pu prendre, parce que Marianne Otero, il va pouvoir étudier les planches contact de Gilles Caron, et voilà, le documentaire aussi parsemé des interviews avec des gens qui l'ont connu. Mais c'est surtout ce rapport à l'image, en fait, et surtout, comme le titre le dit, au regard de cette personne qui avait un œil incroyable et une attention particulière. Elle était alerte tout le temps, et qui voilà, avant 30 ans, il fait une œuvre assez monumentale. Le documentaire est construit vraiment d'une façon assez intéressante, justement, par rapport à cette question de déconstruire, retrouver l'identité avec quelqu'un à travers son regard et les fragments de qui nous restent, en fait, de ces regards.
Histoire d'un regard, donc, documentaire sur Gilles Caron, photographe de guerre décédé au Cambodge, je crois.
Au Cambodge, en 1970, pendant la guerre des six jours, je crois, un truc comme ça.
Et on va juste terminer sur Les Misérables. Fameux film de Ladjili que vous passez au cinéma Orson Welles, c'est entre le 12 et le 18 février.
Super beau, Les Misérables, qui, voilà, de Ladjili, qui a gagné à Cannes le prix du jury, qui est aux Oscars pour représentant la France, premier long métrage. C'est vraiment, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le voir, courez-y, parce que c'est vraiment, vraiment un des plus beaux films. Enfin, un des films les plus importants à propos de la banlieue, en fait, de la situation d'aujourd'hui. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment raconté par les gens qui l'ont vécu, en fait. C'est vraiment tout ce qu'on y voit, c'est des choses qui sont vraiment arrivées à Ladjili. Et il fait jouer... Enfin, il vient de Montfermeil, Ladjili, et l'invité là-bas. Et donc, les scènes, ils sont tournées dans sa cage d'escalier, par exemple. Il a réussi comme ça à rendre, avec les cinémas, cette espèce d'énergie et cette espèce d'urgence qu'il y a à se pencher sur l'inclusion, notamment des plus jeunes, en fait. Parce que ce que le film est fini par raconter, c'est que il y a tous ces pôles de pouvoir entre les adultes, mais ceux qui payent toujours les verres cassés ou les assiettes brisées, c'est la jeunesse. Et c'est eux qui vont finir par se révolter, en fait. Et quand ça arrivera, enfin, ça peut être assez dur, quoi. Donc, du coup, c'est un film qui pense toutes ces choses-là. C'est un film très urgent, je pense, qu'il faut absolument voir.
Film tourné en banlieue, donc.
En banlieue, à Montfermeil, oui, avec
Toute une réflexion aussi sur les violences policières et le rapport entre la banlieue et la police.
Oui, oui, mais justement, c'est ça qui est au cœur en fait du film. Mais même plus que ça, en fait, c'est pas seulement. C'est toute l'articulation de ces microcosmes. Moi particulièrement, j'habite pas à banlieue, mais les gens qui n'habitent pas à banlieue, peut-être ne se soupçonnent pas à quel point, en fait, il y a une espèce des micro-écologies, entre ces choses-là. Donc, c'est tous ces pouvoirs-là, et qui est très tendu, en fait, c'est comme une espèce de cocotte à. Quelque chose qui peut basculer d'un moment à l'autre, mais quand même, et qui tient sur un fil, et cette fragilité-là, elle est très bien rendue dans le film, et sans prendre point de vue, en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est que, malgré que ce soit un film engagé, on peut pas dire que les policiers, c'est des méchants, il n'y a pas vraiment une prise des points directement. Voilà.
Merci beaucoup, Lucas, d'avoir avoir présenté la programmation du cinéma Orson Welles. À retrouver du coup en ligne, elle est sur Facebook, elle est sur le site de la Maison de la Culture, dans l'onglet de cinéma Orson Welles. Et le programme est trouvable partout dans toutes les structures miennoises de culture. Merci beaucoup, Lucas. Au revoir.
Au revoir. Merci, Juliette.